L'émission sur Radio Évasion. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans L'EM, l'émission quotidienne de Radio Évasion en direct à midi et rediffusée à 18h. Souvent, le mardi, c'est science. C'est le cas aujourd'hui. On va en bord de mer, par exemple dans le marais de Kervigène à Plomodierne ou encore sur la plage du Riz à Douarnenez. Bref, on va bien en baie de Douarnenez car c'est le territoire principal du projet de recherche qui nous intéresse aujourd'hui. Il a pour nom Green Seas. Même avec un petit niveau d'anglais, on perçoit bien qu'il s'agit de mer verte. Chez nous, quand on dit mer verte, on pense algues vertes. La question est donc écologique. Mais comme toujours en écologie, il s'agit aussi d'activités humaines, de cohabitation entre des milieux sauvages et ces activités. Bref, il y a du complexe, d'où sans doute le nombre d'organismes de recherche impliqués. Une dizaine, dont beaucoup sont basés en Bretagne. Des sciences sociales comme l'AMUR, de la technologie et de l'innovation liées aux algues comme le CEVA de Pleubian, de l'aménagement avec le LABERS, de la santé publique avec AREN. Des sciences de l'environnement avec le LEMAR. Les algues vertes, on les étudie depuis les années 1980, on les connaît sur certains plans, mais pourtant on n'arrive pas vraiment à lutter contre ce phénomène. Ce projet de recherche va donc plus loin pour mieux faire. Avec nous, un échantillon des participantes du projet Green Seas, Alix Levin qui est anthropologue au CNRS et Alida Boyu qui dirige l'établissement public d'aménagement et de gestion de la baie de Douarnenez, autrement dit l'EPAB. Bonjour à toutes les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Alors, ce dysfonctionnement écologique qui est à l'origine des algues vertes, en fait, et auquel s'intéresse ce projet, c'est l'eutrophisation, c'est ça? On va déjà définir ce mot.
Oui, Alida. Tout à fait. Alors, le phénomène d'eutrophisation, c'est une réponse de l'écosystème aquatique suite à un apport excessif de nutriments, donc essentiellement de l'azote et du phosphore. Et donc, stimulés par ces apports d'éléments nutritifs, les algues, en fait, vont se multiplier de manière excessive. Et cela va se produire dans les couches d'eau superficielles, des masses d'eau, où la lumière, justement, qui est essentielle au développement des végétaux, est présente. Donc, effectivement, cette eutrophisation, elle va pouvoir se caractériser sur le littoral breton, notamment par l'eutrophisation dites à marée verte, en fait, où donc les algues vertes qui sont naturellement présentes et présentes là sur les littoraux vont se développer de manière excessive et produire ces marées vertes.
Et donc elles étouffent en quelque sorte le milieu, on peut dire ça comme ça?
Elles prennent une place importante en tout cas dans le milieu. Alors il y a quand même une vie propre qui se développe au sein de la masse, de la biomasse algale. Donc effectivement l'écosystème se réorganise au regard de ce développement de la biomasse lorsqu'elle est dans l'eau en fait.
Et l'eutrophisation, on est d'accord, c'est pas forcément les algues vertes. Enfin, ça peut être d'autres végétaux dans d'autres milieux aquatiques.
Alors, on parle aussi d'eutrophisation. Donc là, on est dans l'eutrophisation côtière. On a aussi de l'eutrophisation dans des plans d'eau, dans des lacs, par exemple. Et donc, on a aussi ce phénomène de développement algal. Alors, ça peut être aussi des macro-algues, comme les algues vertes, les ulves, ou des micro-algues qui vont se développer aussi suivant la nature de l'eutrophisation.
Ces algues vertes, donc on les étudie, je disais, depuis longtemps. Qu'est-ce qu'on sait, de manière sûre et certaine? Enfin, quelles sont les disciplines scientifiques qui les connaissent bien? Parce qu'en fait, c'est ça l'intérêt du projet Green Seas, c'est qu'il y aura d'autres disciplines scientifiques, mais l'état des lieux, en gros, quoi.
Oui, alors sur les marées vertes, effectivement, il y a une expertise scientifique qui s'est développée depuis un certain nombre d'années, principalement, qui a permis de caractériser ce qu'était la marée verte et ses conditions de développement. Donc on a des organismes scientifiques tels que IFREMER, initialement qu'on travaillait sur le sujet, mais aussi donc aujourd'hui on a le CEVA qui suit le développement des marées vertes depuis un certain nombre d'années.
Donc le CEVA, Centre technique et d'innovation des
Centre
algues.
Centre d'études et de valorisation des algues, voilà, qui est basé à Pleubian dans les Côtes d'Armor. Et également on a l'INRA qui s'est penché aussi sur le fonctionnement en fait en amont en fait de la zone littorale, de ce qui se passe sur le bassin versant, pour comprendre justement comment ces transferts de nutriments partent du territoire pour rejoindre le milieu aquatique et provoquer ces développements excessifs de, de marée verte.
Parce que pour ce qu'on en sait, ça vient quand même de la Terre. Enfin, le problème vient de la Terre en ce qui concerne les marées vertes, les algues vertes.
Alors en fait, il y a différentes conditions. Pour avoir une marée verte, il y a des conditions propres au niveau trophique, donc à la quantité d'éléments nutritifs qui vont arriver dans la baie. Et donc ces éléments nutritifs arrivent principalement, effectivement, de terre. Et on a également des facteurs naturels qui vont impacter, notamment la morphologie du littoral de la baie. Donc si on prend la baie de Douarnenez, on a une baie semi-fermée. Avec des eaux peu profondes en pente douce, donc qui vont permettre d'avoir une eau claire où justement l'algue va trouver des conditions adaptées pour se développer.
Ça brasse pas beaucoup aussi, c'est ça, quoi.
Ça brasse pas beaucoup. Bon, l'hiver, on a quand même des conditions météorologiques qui vont faire que justement on va impacter sur les conditions de milieu et donc défavoriser si on a un hiver un petit peu tempétueux et puis donc avec de la houle, du vent qui va, on va dire, mettre à mal le stock possible d'algues vertes qui reste en hiver. Donc voilà. Et effectivement, ces conditions météorologiques vont impacter de façon notable aussi dans le flux d'azote qui va pouvoir arriver dans la baie.
Parce que plus il pleut, plus il y a de ruissellement et plus c'est
alors,
ça.
Alors plus le débit du cours d'eau va augmenter, donc plus la quantité d'azote effectivement qui va arriver dans le milieu va être plus conséquente.
Et le bassin versant lui-même, pour nous resituer un peu sa surface, enfin ses caractéristiques, en gros quoi. Hein. Alors, il est grand, il est pas très grand.
Alors nous, sur la baie de Douarnenez, en fait, on a une spécificité, c'est d'avoir beaucoup de petits cours d'eau. Donc, à l'échelle vraiment de l'ensemble du périmètre de la baie de Douarnenez, on a plus d'une cinquantaine de petits cours d'eau, dits côtiers. Et sur le périmètre vraiment du plan algue verte, on a 8 cours d'eau principaux, mais 21 cours d'eau qui sont concernés en tout cas par aujourd'hui le plan algue verte. Et sur ces cours d'eau-là, en fait, effectivement, on va avoir des débits qui vont être variables et les débits vont être fonction de la surface du bassin versant. Plus on a une surface de bassin versant importante, plus le débit est plus important.
Ah oui. Pourquoi ? Je comprends pas.
Parce qu'en
désolé.
Fait,
il y a une c'est pas lié à la pente plutôt ou des choses comme ça.
L'écoulement, bah effectivement, le ruissellement va être plus intense si on a une pente plus forte. Donc ça veut dire que la goutte d'eau qui va tomber sur en haut du bassin versant va rejoindre plus rapidement potentiellement s'il n'y a pas d'obstacle sur sa route, on va dire, pour rejoindre le cours d'eau. Mais en fait, on a un cours d'eau qui est plus déjà qui a une longueur plus importante, qui a donc
il y a plus d'eau qui tombe sur le bassin versant s'il est plus
également.
Grand. C'est ça. Comme
aussi.
Sur une toiture, si on a une grande toiture, on récupère plus d'eau, c'est ça.
Plus d'eau et on a également tout un système souterrain d'eau aussi, qui va réalimenter aussi donc la nappe d'eau souterraine qui va alimenter le cours d'eau, notamment en période d'étiage.
Et sur l'apport d'azote, on est quand même, bien sûr, bien certain que c'est de l'apport essentiellement d'origine agricole.
Oui, les différentes études qui ont pu être menées à différents échelons montrent bien qu'on a un apport majoritairement d'origine agricole, à 90% en moyenne, sur les différents territoires. Quoi.
Est-ce qu'on arrive à discriminer aussi quel type d'azote ? Est-ce que c'est plutôt du cochon, du... je sais pas quoi.
Non, non, et c'est pas l'objet en soi. Quoi. L'azote, il y a différentes sources d'apport. Et ensuite, on a un territoire avec des activités différentes, différents types d'élevage. Bah, oui. L'objectif, c'est que qu'on gère... qu'on évite d'avoir une production d'azote inadaptée par rapport aux caractéristiques du territoire et d'éviter les fuites vers le milieu naturel également.
Très bien. Donc ça, c'est ce qu'on sait. Et pour autant, les plans algues vertes fonctionnent moyennement, on va dire, pour être gentil. Il y a beaucoup d'argent qui a été mis et puis finalement, ça se... Il y a des progrès, mais bon.
Alors, voilà. Y a...
Alix, non ?
Oui, peut-être. Ouais. Alida aurait sans doute beaucoup à dire sur la question, mais... Peut-être ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a à la fois beaucoup d'argent et pas beaucoup. C'est beaucoup d'argent parce qu'on voit bien que finalement la situation n'a pas fondamentalement changé du point de vue de l'observation qu'on peut faire des échouages de marée verte. Je vais nuancer un peu ça. On est loin d'être au bout, on va dire, des marées vertes en Bretagne. Pour autant... Il y a des améliorations qui sont observées sur certains sites, puisque les marées vertes touchent une multiplicité de sites en Bretagne.
Oui, pas seulement la baie de Douarnenez.
Pas seulement la baie de Douarnenez. On a 8 sites majeurs d'échouage sur plage, on va dire, qui sont pris en considération dans les plans de lutte contre les marées vertes. Alors, beaucoup d'argent, oui, au regard des effets qu'on pourrait attendre quand on annonce plus de 100 millions pour un plan, et puis pour le deuxième, et puis pour le troisième, on a l'impression que c'est beaucoup d'argent. Quand on le rapporte au nombre d'hectares, on va dire, qui sont à prendre en considération pour la lutte contre les marées vertes, c'est finalement pas tant que ça à l'hectare, et malgré les annonces qui peuvent être faites et la communication renforcée qu'on a sur ce sujet-là depuis le début des années 2010, je dirais, eh ben, il n'y a pas forcément de renforcement de moyens significatifs. C'est ce qu'a mis en évidence le travail d'évaluation de la politique publique de la Cour des comptes qui a été réalisé il y a 2 ans et qui disait que même à certaines périodes, on était presque sur une baisse des moyens dévolus à l'accompagnement des transformations de pratiques à l'hectare, hein, quand on le rapportait donc à l'hectare. Donc beaucoup et pas beaucoup à la fois, sachant que bien évidemment les territoires à algues vertes font l'objet d'une attention particulière du point de vue du public, du point de vue des politiques elles-mêmes, mais que en parallèle sur l'ensemble du territoire breton, il y a un certain nombre de politiques visant à accompagner la restauration de la qualité de l'eau, à retrouver un bon état des cours d'eau et des masses d'eau côtières qui sont menées et qui sont appliquées. Et de ce point de vue, pour l'instant, on n'a pas réussi à démontrer effectivement que les politiques publiques dédiées à la lutte contre les marées vertes permettaient d'améliorer plus rapidement la situation que sur le reste du territoire. Et c'est là qu'effectivement, des questions peuvent se poser, c'est-à-dire il y a plus d'argent, plus d'attention, plus de moyens techniques. Pour autant, pas de trajectoire fondamentalement divergente, même si, quand même, on a des améliorations. Et globalement, depuis le début de la mise en œuvre de ces politiques, on va dire à la fin des années 90, on observe quand même une baisse tendancielle des concentrations et des flux d'azote aux exutoires des cours d'eau. Baisse lente, fragile, parfois des paliers aussi, mais une baisse qui concerne la grande majorité des bassins versants et qu'on observe en moyenne à l'échelle de la Bretagne, même si évidemment il faut se méfier un peu des moyennes.
Et juste, Alida, ça consiste en quoi les plans, en fait, en gros, les politiques qui sont menées, ça consistait en quoi jusqu'à présent pour lutter contre les algues vertes?
Alors, jusqu'à présent, en tout cas, on était sur des programmes de lutte basés sur le volontariat. Donc, on avait un certain nombre d'actions donc auprès des agriculteurs, soit sous forme collective, donc avec des temps d'échange, de formation, de retour d'expérience, justement, pour faire évoluer les pratiques, et des temps aussi d'accompagnement individuel auprès des exploitants, pour au regard de leurs projets, de leur situation, de pouvoir apporter une expertise aussi technique pour les accompagner dans leur projet. Donc
c'était surtout ciblé sur l'agriculture.
Alors, enfin, volet agricole, ouais. Et autrement, en tout cas par rapport à l'EPAB, on a développé un volet sur la restauration des zones humides. Donc vraiment la restauration fonctionnelle des zones humides, c'est-à-dire qu'on va reconnecter le cours d'eau avec ses milieux annexes humides.
Qui servent de filtre, en fait, c'est ça, pour retenir l'azote.
Qui vont permettre de permettre à l'eau de stagner, on va dire, dans la zone, de circuler sur un temps plus long, et effectivement d'avoir une activité épuratrice de la zone.
Donc quoi, Kervigen? Non, Kervigen n'a jamais été trop abîmé.
Voilà, Kervigen, c'est un site un peu emblématique et historique sur le territoire, en sachant que, effectivement, sur cette zone humide, qui avait pu être exploitée il y a quelques dizaines d'années, on va dire, lorsque l'agriculture n'était pas encore un niveau de mécanisation important. Aujourd'hui, en fait, on dérive une partie du cours d'eau dans la zone humide pour permettre justement cette répartition du cours d'eau au maximum dans la zone humide. Donc voilà, Kervigen, ça a été plus un site expérimental qui a permis de confirmer que des zones humides ont bien une capacité épuratoire. Pour autant, on ne va pas utiliser ces zones non plus comme station d'épuration. C'est vraiment un des points aussi que l'on souligne.
Oui.
Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que ce soit en France et ailleurs, les zones humides, beaucoup de zones humides ont été détruites. Et donc nous, dans notre objectif de réhabilitation, c'est de voir là, sur les différents bassins versants, quelles sont les zones intéressantes en termes de remise en fonctionnement de ces zones, qui vont retrouver un fonctionnement naturel et contribuer à cette épuration qui se faisait par ailleurs dans le temps sur le cours d'eau.
Et combien de zones humides à peu près, juste pour avoir une idée
Alors, on est arrivé là à peu près à 50 hectares de réhabilitation de zones humides. Et c'est vrai que c'est donc des processus qui demandent alors déjà des autorisations au niveau réglementaire hein, pour être autorisé à intervenir sur le milieu et de la concertation aussi avec les acteurs locaux, les propriétaires de ces parcelles-là, parce qu'on va remettre en eau une partie du temps les parcelles. Donc, il va y avoir une gestion derrière différente des zones et donc de la gestion aussi dans le temps sur ces parcelles. Mais effectivement, ça permet en tout cas de contribuer à l'effort global sur le territoire, mais en agissant sur les milieux tels qu'ils devraient être de toute façon naturellement.
Alors, on a beaucoup parlé d'écologie, enfin d'écologie au sens vraiment des sciences de l'environnement. Et là, on arrive petit à petit à l'aspect sciences humaines. Alors, c'est ça, le projet Green Seas, qu'il faut bien voir, c'est ça. Enfin, quelle est son originalité? Quelles sont ses originalités, Alix?
Oui, ben, peut-être rapidement. Le projet Green Seas, c'est un projet qui est financé par l'Agence nationale de la recherche. Donc, c'est un financement académique de la recherche publique. Ça permet une recherche indépendante avec des moyens qui sont conséquents et puis sur une durée relativement longue. C'est-à-dire là, pour nous, 4 ans, c'est bien. On a le temps de déployer des partenariats, d'échanger avec beaucoup d'acteurs locaux, de mettre en place de la recherche qu'on pourrait appeler un peu à risque, c'est-à-dire de sortir un peu des routines de travail habituelles. Et aussi de se dégager du calendrier opérationnel des politiques publiques. Et ça, c'est vachement important sur des sujets comme ça.
Ça veut dire on s'en fiche des élections,
c'est ça. Mais je ne pensais pas forcément aux élections, si ça peut éventuellement jouer. Mais en tout cas, par exemple, si le plan Algue Verte numéro 3, parce qu'on est au numéro 3, ben voilà, là, il est en train de se lancer. Il va durer tant d'années. Il y aura des étapes intermédiaires. Il y aura des financements d'études ou de choses comme ça.
Mais là, ce n'est pas lié à ce plan Algue Verte.
Voilà, on n'est pas obligé de se caler sur ce calendrier-là.
Vous avez déjà l'argent, enfin, il vient
on
d'ailleurs.
On a déjà
quoi,
le trésor. Alors, c'est un trésor, je vais faire la même réponse que tout à l'heure, qui est à la fois grand et petit, c'est-à-dire que c'est quand même des volumes conséquents, donc ça nous permet d'avoir 9 équipes qui travaillent, ce qui est quand même important, donc pour répondre plus directement à la question. Il y a trois originalités que permet ce financement. La première, c'est d'avoir à égalité, on va dire, une participation, une contribution des sciences humaines et sociales et des sciences que je vais appeler rapidement biophysiques et qui sont celles qui ont été jusqu'à présent les plus mobilisées, et on comprend pourquoi, sur ce problème des marées vertes.
C'est l'adjectif que je cherchais tout à l'heure, les sciences biophysiques.
Oui, pour pas dire dur,
ouais, chimie,
exact,
biologie, tout
voilà,
ça aussi.
Voilà. Et voilà, donc ça c'est la première originalité. Donc on voit apparaître dans notre consortium de recherche, on va voir apparaître des historiens, des politistes. Donc moi, ça fait un petit peu de temps que je travaille là-dessus, mais j'aurai plus de collègues en sociologie, en anthropologie. Donc c'est un ensemble de sciences humaines et sociales qui vont regarder plutôt le phénomène sur le plan de son histoire politique, sociale, des controverses, des conflits auxquels il a pu donner lieu, puis de l'expérience vécue des habitants et des porteurs d'enjeux, des parties prenantes. Ça, c'est la première originalité, une forte présence des sciences humaines et sociales. La deuxième originalité, c'est qu'on a à peu près aussi à égalité ce que j'appellerais rapidement des maritimistes et des terriens, quoi, ou des terrestres. C'est-à-dire des gens qui vont travailler plutôt sur l'amont, sur les bassins versants ou sur les dynamiques à terre, et des gens qui vont travailler plutôt sur les milieux marins.
Et ça, c'est rare dans les projets de recherche ? Ils ne se mélangent pas, ces gens-là ?
C'est difficile à faire. Et alors, pas tant que ça. Alors, ça fait très longtemps qu'on sait que c'est une butée et quelque chose, une frontière un peu scientifique qu'il faut qu'on dépasse. Et sur les marées vertes, on est sur un sujet qui, bien évidemment, se situe dans le continuum terre-mer. Et donc, il y a quand même eu des efforts de fait en ce sens. Mais c'est vrai que ce n'est pas les mêmes organismes de recherche, ce n'est pas les mêmes disciplines, ce n'est pas les mêmes priorités, pas les mêmes dispositifs de financement. Tout ce qu'on peut imaginer, c'est deux univers qui se côtoient en se croisant difficilement, je dirais. Voilà, pour des raisons plutôt institutionnelles. Voilà.
Et la troisième originalité du projet Green Seas.
La troisième originalité du projet Green Seas, sur le plan scientifique strictement, c'est que on a pu aller chercher et mobiliser des collègues qui ne sont pas des Bretons, qui ne sont pas des vieux routiers des marées vertes, qui pour autant, par leur expertise, ont beaucoup de choses à apporter. Des gens qui sont des spécialistes, par exemple, des milieux méditerranéens, des gens qui sont, parce qu'on va travailler aussi sur d'autres territoires, à d'autres échelles, des gens qui sont des spécialistes de la relocalisation alimentaire, des transitions agroécologiques, donc avec des économistes avec différentes facettes, mais en tout cas des gens qui n'entrent pas, je dirais, dans la recherche par le sujet Marie Verte habituellement, mais qui pour autant ont beaucoup à apporter à la compréhension des trajectoires, des systèmes qu'on va regarder, puisque c'est ça l'entrée de Green 6, c'est qu'on cherche à avoir une approche rétrospective de 50 ans de confrontation à un phénomène comme l'eutrophisation littorale. Qu'est-ce que ça produit ? Qu'est-ce que ça produit ? Qu'est-ce qu'on peut en dire ? Qu'est-ce que ça nous apprend ? Sur le plan de la dynamique des systèmes écologiques, bien sûr, mais sur le plan aussi des dynamiques sociales et politiques.
Oui, humaines. Et alors, l'établissement public d'aménagement et de gestion de la baie de Douarnenez, Alida Boihu, n'est pas un organisme de recherche vraiment, mais quel est le rôle de l'EPAB dans cette recherche ?
Alors nous, on est un petit peu territoire support, entre guillemets, un des territoires support.
Le principal quand même, c'est la baie de Douarnenez.
Voilà. Donc qui va permettre effectivement d'avoir toute cette analyse qui va être portée par les différentes équipes pluridisciplinaires. Pour nous, effectivement, ça va nous permettre vraiment de développer une autre vision sur tout ce qui s'est passé depuis les premières apparitions de marée verte et de comprendre aussi ce qui s'est passé, d'avoir une analyse finalement totalement indépendante et en mobilisant justement ces expertises.
Vous allez vous servir des données, des recherches pour mener vos actions,
le projet Green 6 va être une sorte de soutien, un petit peu sans être une évaluation de politique publique, mais ça va être un soutien quand même dans cette évaluation et un appui pour concevoir aussi la suite. Et c'est surtout se poser un petit peu la question, justement, aujourd'hui on parle beaucoup de transition territoriale, liée au fait qu'on a des problèmes environnementaux dans différentes thématiques. C'est comment justement on arrive à mobiliser un territoire, comment le territoire va s'approprier toutes ces questions, comment aussi derrière, les politiques, la gouvernance va s'en saisir ou diriger de telle ou telle façon les sujets pour répondre à un enjeu qui est identifié à un moment donné par des acteurs. Mais finalement, c'est de comprendre quels sont justement ces fameux points de bascule à un moment donné dans le processus et quel impact sur la vie du territoire et comment justement ces impacts ont eu des conséquences à toutes les échelles et notamment aussi sur la vie du territoire par rapport aux acteurs qui y vivent.
Oui, puis c'est vous qui, justement, l'EPAB, vous pourrez préconiser des acteurs à interviewer, à interroger les chercheurs, c'est ça, non ?
Alors le panel est large, mais Alix a déjà aussi travaillé sur la baie de Douarnenez.
Et Alix, elle connaît quand même la baie de Douarnenez, je crois.
Voilà, donc un certain nombre d'acteurs sont déjà bien connus, mais effectivement, le but, c'est de balayer un nombre d'acteurs très large et très varié pour ne pas cantonner non plus le sujet à certains types d'acteurs plutôt que d'autres.
C'est ça. Alors Alix, un mot de la méthode, des méthodes, voilà.
Oui. Peut-être ce qu'on peut souligner d'entrée de jeu, ça me paraît très important, c'est que quand on cherche à intégrer toutes les connaissances, ça veut dire aussi qu'on questionne le statut de la connaissance scientifique. Ça veut dire que on va considérer avec beaucoup d'attention des savoirs d'expérience, des savoirs militants, des savoirs professionnels, par exemple des savoirs professionnels d'agriculteurs, pour essayer de reconstituer ensemble cette lecture commune qu'on peut avoir et qu'on peut construire, mais aussi sans lisser les différences. Parce que finalement, 50 ans de marée verte pour les uns et les autres, ça ne veut pas dire la même chose.
Ah oui.
Et donc c'est important de restituer aussi cette pluralité de visions, de les expliciter, de les mettre en récit. Et donc, l'une des méthodes qu'on cherche à avoir, c'est de produire des outils qui rendent la situation intelligible et qui ne cherchent pas à lisser les aspérités, parce que, on le sait, c'est un sujet qui est ultra sensible, qui est conflictuel, et sur lesquels il y a des visions qui s'opposent. Et donc, l'idée, pour nous, c'est d'utiliser justement notre partenariat avec l'EPAB, mais aussi avec d'autres réseaux d'acteurs, qui peuvent être des réseaux de collectivités, des réseaux de techniciens, des réseaux agricoles, ou des réseaux d'ONG aussi, pour mettre en commun ces récits de ces 50 ans et essayer d'en produire une lecture un peu problématisée avec nos outils à nous de chercheurs. Alors, je ne peux pas parler au nom de tous les collègues, c'est un projet assez
vaste,
épais, mais je peux dire comment je travaille avec l'équipe de Green 6 qui va s'occuper de ces mises en récit. On va travailler en essayant de reconstituer les cultures populaires de l'eutrophisation et des marées vertes telles qu'elles émergent au fur et à mesure du temps.
Culture populaire, tiens, ça
culture populaire, quoi, ça par exemple, ça peut être des cartes postales, des romans policiers, des mentions dans différentes productions culturelles.
Avec des algues vertes dedans.
Avec des algues vertes dedans. D'accord. Ça peut être, par exemple, on commence à engager avec une jeune collègue post-doctorante du projet un travail autour de l'identification dans le festival, enfin dans le carnaval, dans les grades d'Ouarnenez.
Ah oui.
Est-ce qu'il y a des mentions de la baie de Douarnenez? Sous quelle forme? Quelles sont les charges politiques qui sont associées, portées à ces entités-là, la baie, les algues, l'agriculture, et comment ces choses-là sont problématisées avec les outils du populaire et les médias du populaire. Mais on peut aussi le travailler, évidemment, en essayant de reconstituer, de faire de la collecte, hein, de témoignages d'anciens qui ont par leur profession, par leur situation, par leur habitat, etc., un contact particulier avec le phénomène, avec l'évolution des structures paysagères, avec la baie elle-même. Donc ça aide beaucoup de collecte de paroles, beaucoup de collecte d'archives aussi. On travaille beaucoup à partir des archives locales, qui peuvent être des archives publiques.
Oui, parce qu'il y a des historiens dans l'équipe.
Ouais. Oui, il y a des historiens, tout à fait, des archives publiques, des archives également des particuliers. Des archives militantes aussi, ou professionnelles. Donc voilà le type de méthode qu'on utilise pour ce qui concerne la collecte. Puis après, il y a toute la question de savoir comment on met en partage.
Ah oui.
Et oui, parce qu'on n'est pas dans une logique de transfert de connaissances, non. C'est-à-dire on fabrique notre recherche, on la publie, puis après, si on a le temps, on fait une restitution, c'est pas ça. L'idée, c'est d'emblée penser les formes à partir desquelles on peut appuyer la mise en débat auprès d'un nombre le plus large possible d'acteurs sociaux, et notamment en prenant en compte un point qui me paraît fondamental, c'est le fait que tout le monde n'a pas un égal accès à la parole publique et à l'espace public. Et il y a quand même plein de groupes sociaux, pour des raisons diverses, qui ne sont pas entendus, qui ne peuvent pas s'exprimer, etc. Et donc l'idée, c'est d'utiliser certains médiums comme le théâtre, comme les lectures publiques, comme le film ou comme la radio.
Eh bien voilà, c'est ce que j'allais dire.
Mais oui, bien sûr, pour travailler sur des formes qui soient accessibles et appropriables et qui puissent être coproduites avec les habitants.
D'accord, bon, de toute façon, on a 4 ans pour en parler, hein, je crois. Là, on arrive au terme de l'émission, mais on prendra des nouvelles du projet Green Seas. Et puis en attendant, bien sûr, vous pouvez réécouter cette émission sur le site de la radio. Merci.
Merci.
Merci.